comprends le sidour, page, le sidour à la page 35. On va commencer à Chol Davar, Shaya Bichal, Vesta Minaklal et Lamed. Donc c'est numéro 7. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, on s'est arrêté ici. Je crois qu'on a fait le 7e aussi, non? Si on a fait le 7e aussi. On a fait le 7e. Alors, donc de quoi elle parle cette Mishnah? C'est une Mishnah, enfin c'est une Braïta, qui est enseignée dans le début du Sifra, et qui explique les 13 méthodes par lesquelles on peut étudier la Torah. Quand je dis 13 méthodes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas simplement lire et traduire la Torah et croire qu'on a tout compris. Ça marche pas comme ça. Il y a des méthodes, comment appréhender la Torah et comment faire, comment comprendre la Torah. Comment faire par exemple quand on a deux versets qui sont contradictoires. Ou quand on a un verset qui nous donne l'impression qu'il y a une halakha qui va s'appliquer sur deux cas, et un autre verset qui nous donne l'impression que cette même halakha s'applique que sur un cas. On avait donné différents exemples la semaine dernière. Il y a deux semaines, c'est ça? Il y a deux semaines. Donc on a donné différents exemples. On est arrivé au 8e principe. Donc on va commencer directement au 8e principe, 8e méthode avec laquelle on peut étudier la Torah. C'est
herméneutique, je crois.
Herméneutique. De quel mot ça vient?
Du grec, sans doute. Fermé, ça veut dire fermé, herméneutique.
Kol davar shaya bichlal, veyatsa minaklal lelamet. Alors, toute chose, shaya bichlal, qui faisait partie d'un principe, d'une généralité. Donc d'abord, j'explique le principe, après on donnera un cas de figure. Donc, kol davar shaya bichlal, toute chose qui faisait partie d'une généralité. Veyatsa minaklal lelamet. Et il a quitté la généralité pour apprendre. Ça veut dire que il y avait quelque chose qui faisait partie d'une généralité. Une généralité, comme on va donner un exemple après. Et après, la Torah a pris un détail de cette généralité et a appliqué une halakha dessus. Lo lelamed al atzmo yatsa, il n'est pas venu pour apprendre uniquement pour soi-même. Et là, lelamed al klal kulo yatsa, il est venu pour nous apprendre à la klal kulo, ça veut dire pour toute la généralité. Alors je vais donner un exemple, je vais expliquer juste de quoi ça parle. Par exemple. La Torah elle nous dit, je crois qu'on, il me semble peut-être on l'a déjà fait celui-là, mais bon je suis pas sûr. La Torah elle nous dit la chose suivante. La Torah elle nous dit, celui qui mangera de la viande, des sacrifices de Shelami. Vous savez qu'il y a différentes catégories de sacrifices. On a le sacrifice de Shelami, le sacrifice de Khatat, le sacrifice de Hacham, le sacrifice de Hola. On a différentes catégories de sacrifices. Il y a un verset dans la paracha Vaikra qui dit la chose suivante, qui dit, une personne qui mangera de la viande du sacrifice de Shelami, alors qu'il était impur, quand on est impur, on n'a pas le droit de manger du sacrifice. C'est kadosh, le sacrifice. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Il nous dit, venir cheta, cette personne-là, si elle l'a fait de manière préméditée, et qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait, venir cheta, il sera retranché du peuple juif. Sa neshama est retranché du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce verset? Ce qui s'est passé dans ce verset, c'est que le korban shlamim, le sacrifice shlamim, est un sacrifice qui fait partie de la généralité des sacrifices. Il y a différentes catégories de sacrifices. On a cinq catégories principales de sacrifices. Shlamim, Ola, Khatat, etc. Et là, tout d'un coup, la Torah, elle vient nous dire, d'accord? Tout d'un coup, la Torah vient nous dire que une personne qui mangera de la viande du sacrifice des Shlamim, alors qu'il était impur, il sera retranché. Pourquoi tu me dis Shlamim? Mais Shlamim faisait partie d'une généralité. La généralité des sacrifices. D'accord? Alors là, on a une application pratique. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que c'est pas seulement si la personne mange du sacrifice du shlamim, mais même s'il mange des autres sacrifices, de la viande des autres sacrifices, alors qu'il était impur, il sera toujours retranché du peuple juif. Donc je répète le principe. On va relire ensemble le principe numéro 7. Kol davar shaya bichlal, toute chose qui faisait partie d'une généralité. Donc dans l'autre exemple, c'est quoi? Le shlamim, le korban shlamim, le sacrifice shlamim, qui faisait partie d'une généralité, la généralité des sacrifices. Veyatsa minaklal, et il a quitté le principe, l'élamed, pour apprendre quelque chose. Pour apprendre quoi? Pour apprendre que si on le mange en état d'impureté, le shlamim, on est chayav karet. Qu'est-ce qu'il te dit? Lo l'élamed alatmeyatsa. Il n'est pas venu pour apprendre seulement pour soi-même. que c'est seulement dans le cas qu'une personne a mangé un korban shlamim en état d'impureté qui sera chayav karet. Et là, l'élamed à la klal kulo yassa, il est venu pour nous apprendre pour toute la généralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel sacrifice qu'on mangerait en état d'impureté, on est chayav karet. D'accord? Ça, vous voyez, c'est une des méthodes que si... Voilà, ça veut dire que celui qui lit la Torah, il lit et traduit, il peut avoir l'impression qu'on est chayav uniquement si on a mangé de la viande du korban shlamim. D'accord? Alors qu'en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est donc le principe numéro 7. Principe numéro 7. On n'est pas obligé de tous se rappeler, de se rappeler tous ces principes. C'est uniquement une manière de comprendre qu'on peut pas appréhender la Torah comme on veut, qu'on a un passage obligatoire par le Shulchan Aruch, par la Gemara, etc., parce que c'est eux qui connaissent les principes et qui savent comment les utiliser. Ah ouais, juste avec les principes, avec les 8 principes qu'on a fait jusqu'à maintenant, on comprend qu'on est très rapidement perdu. Parce que si je dois pas comprendre texto ce que tu me dis, mais je dois appliquer ce principe à une généralité, il faut que je connaisse la généralité. Principe numéro 7. Donc 9e principe. Kol davar shaya bichlal. Toute chose qui faisait partie d'une généralité. Veyatsa litron, et il a quitté la généralité pour argumenter, donc je traduis d'abord, Ta'an echad shehu keinyano, donc il a quitté dans la généralité pour un argument shehu keinyano qui ressemble à son sujet. D'accord, je traduis là, après je vais expliquer. Yatsa leakel velo leachamir, il l'a quitté uniquement pour leakel, ça veut dire pour alléger, velo leachmir, et pas pour leachmir, comment on peut traduire leachmir, pas pour alourdir, pas pour intensifier la gravité. D'accord? Être rigoureux. Alors, est-ce qu'il explique?
Non, il
n'y
a pas dit.
Ah, je suis traduit, d'accord. Bon. Alors, on va donner un exemple, une application pratique. La Torah nous dit la chose suivante. La Torah nous dit, une personne, dans la paracha, Ekev, si je ne me trompe pas. Paracha, c'est la paracha Matot, je crois. Bon, je suis plus en tête. Paracha dit la chose suivante, elle dit, si une personne était dans la forêt en train de couper du bois, sans faire exprès, la hache, enfin le morceau de fer a quitté le manche, d'accord, et il est tombé sur quelqu'un, et Dieu préserve, et ça l'a tué.
C'est
Matot, c'est ça? D'accord, Razak. Alors, donc, Vacher Yavo Edreu Bivlidat. Ça, c'est un premier exemple que la Torah donne là-bas. Deuxième exemple que la Torah donne, si ou bien une personne, sans faire exprès, il n'a pas vu une autre personne, ça peut être un cas en voiture, par exemple, il n'a pas vu, et il a écrasé. Il n'a pas vu, il ne pouvait pas le voir. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a le digne de les villes de refuge. D'accord? On a le digne des villes de refuge, c'est-à-dire que si vraiment je peux prouver que j'étais pas responsable, on est toujours responsable, mais que c'était involontaire, d'accord? Bon, après, les cas sont expliqués longuement dans le traité Makot, dans quel cas on a droit à la ville de refuge, mais en tout cas, dans la majorité des cas, on a le droit à la ville de refuge. Donc, dans ce cas-là, la personne peut se réfugier dans la ville de refuge pour ne pas être mise à mort par les vengeurs du sang, entre guillemets, les gens de la famille. Ok. Alors, la Gemara, là-bas, pose la question suivante. Gemara Makot pose la question suivante. Elle dit, attends, 2 secondes. Elle dit, même s'il a frappé, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Mais il a quand même tué. D'accord? Or, on a appris dans la paracha Mishpatim que Umake Adam Yumat, celui qui a frappé quelqu'un et qu'il a d'un coup mortel, devrait être mis à mort. On est d'accord? Alors, donc là, on a un exemple. On avait une généralité. C'est quoi la généralité? La généralité, c'est ce qu'on a dit dans la paracha Mishpatim. Toute personne qui frappe une autre personne d'un coup mortel, il sera mis à mort. Donc ça, c'était la généralité. Mais après, quand on avance plusieurs parachutes plus loin, parachat Matot, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non. On te dit, s'il a frappé sans faire exprès, il y a le principe de la ville de refuge. D'accord? Donc je relis dans les mots. Kol davar shaya bichlal. Toute chose qui était bichlal, c'est-à-dire qui faisait partie d'une généralité. Veyatsa liton. Et il a quitté, donc qu'est-ce qui faisait partie de la généralité? Quand une personne a donné un coup mortel, mais de manière involontaire. Ça faisait partie de la généralité de la paracha Mishpatim qui a dit, celui qui donne un coup et qui était mortel, il sera mis à mort. La paracha mishpatim n'a pas fait de différence si c'était volontaire ou involontaire. Donc, kol davar shaya bichlal, toute chose qui faisait partie d'une généralité, donc le coup involontaire, le coup mortel involontaire. Veyatsa lit'on, et il est sorti de la généralité. Lit'on ta'an echad, pour argumenter quelque chose. Sheu chinyano, d'accord? Ça veut dire pour, il est sorti pour prendre un cas qui ressemblait au cas volontaire. Et qui t'a dit que non, puisque c'est involontaire, c'est pas la mort, mais c'est plutôt les villes de refuge. Yatsa leakel velo leachamir. Yatsa leakel velo leachamir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte le fait que la Torah, on accepte le fait que la Torah l'a exclu du, l'a exclu du principe. Et donc, effectivement, le cas qui a été exclu, il sera plus allégé. D'accord? Velo leachamir, mais, velo leachamir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera jamais pour rajouter plus sur lui. En d'autres termes. Imaginez-vous que dans la paracha Mishpatim, je vous donne un exemple en théorie, hein. Imaginez-vous que dans la paracha Mishpatim, la Torah, elle vient, elle te dit, celui qui frappe un homme sera mis à mort. Non, pardon. Imaginez-vous que dans la paracha Mishpatim, la Torah avait dit, celui qui frappe un homme a le droit à la ville de refuge. Sans différencier s'il a fait exprès ou il n'a pas fait exprès. La Torah ne fait pas de différence. Viens après plus tard la paracha Matot, et elle te dit, celui qui a frappé de manière involontaire sera mis à mort. Imaginez-vous que c'était écrit comme ça. Ça voudrait dire que j'avais un cas qui faisait partie d'une généralité, mais tu l'as exclu de la généralité pour l'empirer. Avant, c'était seulement la ville de refuge. Maintenant, tu veux empirer, tu veux dire non, c'est pas la ville de refuge, c'est carrément, on va le mettre à mort. Là, dans ce cas-là, on fait comme si que le deuxième verset n'existe pas. On est d'accord? C'est la Gemara qu'on fait aujourd'hui. Mais, pourquoi ça marche dans le cas que je viens de dire, dans la paracha Mishdol, la manière actuelle comment ça a été fait? Dans la paracha Mishpatim, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit qu'une personne qui a donné un coup mortel sera mise à mort. Sans différencier si c'était Shogeg ou Mézid. Sans différencier si c'était volontaire ou involontaire. Donc on t'a dit qu'il sera mise à mort. Viens, deuxième verset. Le deuxième verset est venu pour alléger ou alourdir? Le deuxième verset qui nous a parlé des villes de refuge. Il est venu pour alléger ou alourdir? Eh mais si on serait
allégé.
Il est venu pour alléger. Donc puisqu'il est venu pour alléger, je l'écoute. D'accord? Yatsa leakel, velo leachamir. Je peux l'écouter pour l'exclure de la généralité seulement s'il est venu pour alléger. Empirer. Non.
Tu l'exclus s'il est venu pour empirer. Tu exclus celui qui est marqué.
Non, je l'exclus de la généralité. La généralité, elle a dit, il a tué, il faut le mettre à mort.
Et là, tu le prends à la Torah dans ce sens.
D'accord.
Oui, bien sûr. Non, mais dans ce sens-là, mais dans l'autre sens.
C'est avant, après, ça veut dire quoi? Avant,
tu l'as pas fait exprès, ouais.
Non, je n'ai pas pris dans le sens chronologique.
Bah oui, tu m'as dit avant, après.
Non, avant, après, ouais. Ça aurait pu être le contraire. C'est simplement la généralité des tailles.
Quoi, ça arrive, ça, qu'il y a.
Et puis voilà, ça vient d'arriver.
Non, mais là, ça l'allège, donc on l'exclut pas.
Quoi? Mais voilà, ça vient d'arriver. Celui qui dit, attends, tu viens de me dire, celui qui frappe, il est mis à mort. Donc, même s'il a fait sans faire exprès, il doit être mis à mort.
Par inadvertance, pas.
Ah non, c'est pas un chémiche pâtis, mais dis pas par inadvertance.
Ah oui, d'accord,
il y a un problème dans ta Torah.
Oui, mais après, dans.
On a le cas d'une femme qui est jouée.
Oui.
Elle a une punition. Elle est tuée, mais elle est tuée, mais je ne me rappelle plus exactement comment c'est.
Oui, oui.
Et la fille Cohen qui fait ce doute aussi, qui est un cas qui fait partie des femmes qui font ce doute, et ben elle a une punition plus forte.
Oui.
Alors que c'est ça pour alléger, là.
Alors, c'est pas la même chose. Parce que là-bas, la Torah avait déjà donné le principe. Là-bas, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la femme Kohenet ne faisait pas partie de la généralité. Parce que la Torah, depuis le début, a séparé les Kohanim. Dieu a séparé les Kohanim. Il leur a dit, vous êtes à part, vous avez une Kedusha à part. Donc dès le début, on sait qu'ils sont spéciaux. D'accord?
C'est l'intention de la clémence, quoi, en résumé.
Pour ça, oui. D'accord? Alors, Kol Davar Shaya Bichlal. Maintenant, dixième principe. Kol Davar Shaya Bichlal. Toute chose qui faisait partie d'un principe. Alors, vous allez voir que quand on voit tout ça, on préfère retrouver son Shulchan Aour dans lequel on dit la halakha.
Il y a une part dans la Torah qui est marquée que tu es en donnant un coup involontaire.
Et s'il pleut, tu les suis bien.
Si. Dans la Torah, il y a un premier verset qui nous dit une généralité. Qui nous dit celui qui donne un coup sera mis à mort. C'est une généralité. Sans différencier volontaire involontaire. Ensuite, il y a un deuxième verset qui a exclu un cas de cette généralité qui a dit attention, si c'est involontaire, c'est pas la mort, mais c'est plutôt la ville de refuge. D'accord? Alors, deux secondes, oui, mais il y a un problème.
Alors, lequel on prend?
Lequel tu prends?
On prend le plus clément.
Non, mais c'est involontaire seulement.
Alors, oui, justement, je prends, alors attention, j'ai le droit de l'exclure, j'ai le droit de l'exclure.
Les deux sont valables, deux secondes.
J'ai le droit de l'exclure de la généralité, qui disait qu'il doit être mis à mort, seulement si en l'excluant, je vais l'alléger. Je vais être plus clément.
Non, mais si c'est marqué,
c'est presque. Oui, mais c'est écrit. Mais les deux sont écrits.
Les deux sont écrits.
L'inverse,
ça
va être
écrit dans la
phrase. L'inverse.
Dans la
comprendre la Torah.
Mais il nous faut un exemple concret.
Oui. En lisant littéralement.
En lisant littéralement.
C'est marqué
mais non, en lisant littéralement, on ne peut pas comprendre, puisque dans la parasha Mishpatim, on nous donne une généralité. On nous dit celui qui frappe, il dit trois mots. Umake Adam, Yumat. Celui qui frappe un homme, un coup mortel, sera mis à mort. Donc ça veut dire, peu importe si volontaire ou involontaire. Ah, très bien.
C'est pas un coup volonté, tu frappes pas.
Très bien.
Tu frappes un morceau de bois.
Ça s'appelle un coup, ça. D'accord ? Pour la parasha Mishpatim, ça s'appelle un coup.
Oui, parce qu'il a reçu un coup.
Il a reçu un coup, il est mort d'un coup. Il n'est pas venu tout seul.
Mais là on est plus rien du tout.
Hein, c'est comme on disait à l'école, on disait, c'est pas moi, c'est ma main.
Ah oui. Faut pas faire n'importe quoi.
Il est quand
même
coupable.
Non, mais c'est venu, c'est comme à l'école, on disait, c'est pas moi, c'est ma main.
Accident.
D'accord. Oui, c'est un accident, mais c'est un coup accidentel, si vous voulez. Bon. Alors justement. Là, on rentre pas. Je suis pas en train d'entrer dans la halakha. On est simplement en train de donner un principe quand on étudie la Torah. Le principe
de la chose. D'accord. Ces 10 principes là ou
13
principes, c'est pour expliquer ce qu'on comprend pas en lisant littéralement.
Ah oui,
bien sûr. Et là, tu me dis qu'il y a un autre verset qui...
Oui, mais le deuxième verset vient contredire le verset d'avant, alors j'écoute qui ?
Non,
il contredit pas, il l'allège.
Mais non, il peut pas... Le verset d'avant, il t'a dit, celui qui frappe, un coup, c'est la mort.
Mais il contredit pas, il allège.
D'accord, alors, et l'autre, il dit, non, si c'est involontaire, non. Je dis, mais attends, tu viens me dire le contraire.
Mais non, c'est pas contraire, c'est l'avant.
C'est une option. Qui disait si on a tué, on est en ville de
Rome. Oui, oui.
On
n'aurait pas accepté.
On n'aurait pas accepté. Est-ce qu'on a un cas comme ça dans la Torah où on peut voir clairement.
J'ai pas en tête, non.
Ah bah voilà, c'est ça le problème. Il faut un exemple concret.
Là où on n'a pas.
Je n'ai pas précisé. J'ai pas de précision.
Pourquoi tu nous le précises ?
Quoi ? Parce que c'est un principe.
Un principe, il est marqué.
Donc il nous faut un exemple concret sur un autre principe. Sur un autre.
J'ai pas besoin d'avoir, c'est un principe. Un principe qui te dit que quand on exclut quelque chose d'un principe, on peut l'exclure uniquement pour alléger et pas pour alourdir. C'est logique.
C'est dans l'explication, quand tu dis premier, deuxième, premier passouf, deuxième passouf, il ne faut pas le prendre en sens chronologique, mais en sens assertion. C'est-à-dire, d'un côté il est dit, de l'autre il est dit, qu'est-ce qu'on fait en bilan ?
Imagine-toi que tu es un employé. Tu es un employé et tu lui dis, tu me travailles 5 heures par jour. 5 heures par jour. Tu lui dis, toute la semaine, tu me travailles 5 heures par jour. D'accord ? Un jour tu viens, un beau mercredi, tu viens comme ça, tu lui dis, aujourd'hui c'est pas 5 heures, c'est 8 heures. Tu dis, attends, tu peux pas m'alourdir. Si tu veux, tu me dis, travaille 3 heures, ça j'accepte. Ça, tu peux m'alléger. Mais tu peux pas m'alourdir. Il y avait une généralité toute la semaine. D'accord ? Tu m'as dit 5 heures par jour, pour toute la semaine, c'est une généralité. Tu veux m'exclure un jour de la généralité. Tu me diras, attention, mercredi 8 heures. Je dis, non, j'accepte que tu me l'exclues de la généralité, mais seulement pour l'alléger, pour me dire, aujourd'hui 3 heures. Ah d'accord, mais pas pour alourdir. Tu comprends mieux quand on parle de la vie tous les jours ?
Maintenant, je suis pas d'accord avec toi, parce que si t'as un contrat de 5 heures, tu lui donnes 3 heures, mais il faut quand même que tu lui payes tes 5 heures.
Ah, bien sûr.
De l'autre côté, tu vas lui payer 3 heures de plus.
Non, pas de problème. Non, tu lui dis, je te paye 5 heures, je travaille 3 heures. Il n'y a pas de problème. Les aquels.
Ah oui, d'accord. Il va bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
Ok. Alors, dixième principe.
Part en vacances, hein.
Kol davar shaya bichlal v'yatsa liton ta'anecher shelo cheinyeno.
T'as col, toi ? Moi, j'ai des cols.
Des cols ? Kol davar shaya bichlal, toute chose qui faisait partie.
Il est attaché.
Moi j'ai deux livres ici devant moi et même trois. Aussi, a... Même trois si vous voulez.
C'est Kol.
Sur le tata.
Voilà, j'ai trois livres devant moi et les trois c'est écrit Kol. Kol, Kol, Kol. Bon. Alors, bon peu importe.
Là, c'est les mêmes. C'est...
Kol davar shaya bichlal.
On tente.
On tente ici.
C'est exclu ou pas ?
C'est pas exclu ça.
Sauf que celui-là, c'est un livre qui a été édité il y a 100 ans.
Ah bon ?
Ouais. Bon, aujourd'hui, il est réimprimé, mais... Ça, c'est un livre qui a été édité il y a 20 ans, et ça, c'est un livre qui a été édité il y a 5 ans.
Oui, mais c'est la même...
Ils ont copié l'un sur l'autre.
C'est la même question.
Alors, le col d'Avar, Shaya Bichlal,
via
Saliton, Ta'anacher, chez le Chinenu. Toute chose qui faisait partie d'une généralité, et qui a quitté la généralité, l'iton ta'anacher, shelo cheinyano, pour nous trouver une autre chose qui ne ressemble pas à la généralité. Je vais expliquer tout de quoi ça parle. Yatsa le'akel ou le'achamir, dans ce cas-là, il quitte la généralité, et pour aggraver, et pour alléger, et pour alléger, et pour aggraver. Alors on va donner un exemple. Exemple très simple. La Torah te dit la chose suivante. La Torah te dit, lorsque tu acquiers Eved Ivri, ça veut dire un esclave juif, Shesh Shanim, Yahavod, le parachat Mishpatim toujours, il devra travailler 6 ans. Et la 7e année,
le libères.
Tu dois le libérer. Très bien. Bon. Alors, maintenant, juste après, un peu plus tard, la Torah te dit attention. Donc, Eva Divri, on est bien d'accord. Eva Divri, c'est quoi? C'est un esclave, un serviteur, un esclave juif. Lorsque tu acquiers un esclave juif, parce que bon, il a volé, etc., il n'a pas de quoi rembourser, 6 ans il travaille, la septième année, tu le renvoies. Très bien. Après, il y a un deuxième verset qui vient et qui te dit, lorsqu'un homme a vendu sa fille en tant que servante, c'était fréquent à l'époque, on vendait sa jeune fille de 6 ans, 7 ans, en tant que servante, on te dit, elle ne sortira pas comme les esclaves. C'est-à-dire que s'il l'a vendue à l'âge de 3 ans, c'est l'âge minimum à partir duquel il peut la vendre, 6 ans plus tard, elle sort pas. Il faut attendre qu'elle ait minimum l'âge de 12 ans. Qu'elle devienne une nahara. Donc là, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Elle vient d'exclure la fillette, elle vient d'exclure la fillette de la généralité des esclaves. Sauf que, on a ici, l'iton ta'anacher, shelo reignano. D'accord? On est venu exclure la servante pour dire que la servante donc, ne ressemble pas à l'esclave. Sauf que, comme je suis en train de vous dire, on l'a carrément exclu à 100%. Pourquoi on l'a carrément exclu à 100%? Tout d'abord parce que la Torah nous parlait d'un esclave alors que là tu parles d'une servante. D'accord? En plus, cette fillette qui était servante, elle peut sortir par deux possibilités. Soit si son maître il meurt, même si elle a 4 ans et le maître il meurt, elle sort. Elle part. Elle passe pas en héritage. Ça, c'est la première option.
Elle part où à 4 ans?
D'accord? Elle rentre chez ses parents. Chez ses parents originaux. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est si, dès qu'elle a les signes de jeune fille, même si c'est avant 12 ans, dès qu'elle a les signes de jeune fille, d'accord, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir ses règles, etc., elle quitte son maître. D'accord? Très bien. Alors que ça n'a rien à voir avec un esclave. On est d'accord? Donc ça s'appelle qu'on a exclu quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esclave, puisque ces deux choses-là, c'est des choses qu'on ne peut pas appliquer chez l'esclave, puisque l'esclave, même s'il meurt, ça ne change pas qu'on le garde. D'accord?
Il y a des ressemblances,
donc,
ce sont des cas différents.
Alors, Yatsa Léakel, Vel Ouléachamé, on dit que puisqu'on l'a exclu, on l'a exclu et pour l'alléger et pour l'alourdir. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Pour l'alléger, ça veut dire quoi? Pour l'alléger, ça veut dire que, écoutez bien, ça veut dire que elle peut sortir également pendant les 6 ans. En d'autres termes. Normalement, un esclave normal, on doit attendre un minimum de
6 ans.
Là, imaginez-vous que le père a vendu sa fille à l'âge de 9 ans. Et que la fille, donc 3 ans plus tard, elle a 12 ans. 6 ans ne sont pas encore passés. Je l'ai exclu pour l'alléger. Comment je l'ai allégé? Je viens de l'alléger, puisque normalement j'aurais dû attendre 6 ans, maintenant j'en attends que 3. Ça s'appelle pour alléger. Mais je l'ai exclu également pour l'alourdir. Pourquoi pour l'alourdir? Parce que le maître peut se marier avec elle même si elle n'accepte pas. Alors qu'un esclave, d'accord? Un esclave standard, t'as pas le droit de le forcer. S'il veut pas se marier, tu peux pas le forcer.
Un esclave, ça peut être homme ou femme?
Là on parle d'un homme. D'accord? Un esclave, tu peux pas le forcer. Donc, je reviens. Donc là, vous voyez qu'on avait un cas, une généralité. On parlait des esclaves. Des esclaves, 6 ans. Voilà. Esclaves, 6 ans. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu viens de m'exclure la servante de l'esclave. Enfin, la servante fillette de l'esclave. D'accord? Mais tu me l'as exclu chez l'Ocheyeno. Tu m'as exclu quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que là, c'est un cas d'un esclave qui est majeur, etc. Là, tu m'as mis un cas qui n'a rien à voir. C'est une fillette qui n'est pas majeure, son père a vendu. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Chez l'Ocheyeno. Donc, puisque c'est quelque chose qui n'a rien à voir, on l'a exclu, et pour alléger, et pour alourdir. Et pour alléger, ça veut dire qu'elle n'a pas la restriction des 6 ans. Ça veut dire qu'elle peut sortir, même si c'est moins de 6 ans, dès que, par exemple, elle a 12 ans. Donc ça, on l'a exclu pour l'alléger. On l'a exclu également pour l'alourdir. Histoire de dire que dans le cas de l'esclave normal, on peut pas le marier sans son consentement, alors que là, on peut marier cette fille sans son consentement.
À la rigueur, ce sont deux cas différents. Si ce n'est le fait que tu la vends.
Oui, si tu veux. Sauf que c'est pas vraiment deux cas différents, puisque dans les deux cas, ça parle d'esclavage.
Voilà, tu vends. Mis à part le fait que.
D'accord. Sauf que, tu dis, c'est chez l'Ocheyeno. Chez l'Ocheyeno, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est deux cas qui ressemblent, mais c'est deux cas qui ne sont pas exactement les mêmes, puisque c'est quelque chose qui ne ressemble pas à 100%. Donc c'est pour ça que on les a séparés. Ils ont deux halakhot complètement différents.
Elles sont restées de 3 ans jusqu'à 12 ans chez le maître.
Oui.
Donc déjà,
ils meurent plus.
Oui. Oui. Ça peut être une forme aussi de d'alourdissement.
Et sûrement qu'il a vendu beaucoup plus cher quand elle a 9 ans.
Bien sûr. Évident ça. D'accord. Bon, je crois qu'on a s'arrêté là.
Je crois qu'on est bon.
La Torah ne dit pas qu'il ne faut pas une mitzvah de vendre sa fille. Ouais. Ici, il veut vendre sa fille, voilà comment ça se fait. D'accord.
Je crois que Maroc, ma femme m'a expliqué que ça, ils ne vendaient pas. Ils allaient chez leur tante. Non, ils ne donnaient pas faire l'apprentissage.
Omar, moi, je sais qu'on m'a raconté au Maroc, au Tunisie, etc. Il y avait des fois des parents qui n'avaient pas d'enfants. Il y avait des fois des familles. Il y avait des fois des familles qui avaient beaucoup d'enfants. Alors, on leur donnait de l'argent et ils gardaient l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Ouais. C'était fréquent.
On leur donnait de l'argent.
Oui. Non. C'est les nouveaux parents qui donnaient de l'argent aux anciens parents pour acheter un certain droit. Après, ils s'occupaient. Et bon, je suis très content parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Les gens, à l'époque, on n'avait pas les moyens de contraception comme aujourd'hui. Bonne journée. Voilà, on s'arrête ici. On continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine.